Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, de 13h à 14h, nous découvrons des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent, et ensemble, on écoute le monde changer. Pendant une heure, on découvre aussi des parcours de vie autour d'histoires entrepreneuriales. La France bouge sur Europe 1. On en parle avec vous, Emmanuel Dutheil. Vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure du déjeuner. Allez, on sort le pain et on prépare les viennoiseries pour le goûter. Bah oui, on est gourmand ici. On parle beaucoup de hausse de prix en ce moment des produits agroalimentaires. Qu'en est-il au rayon boulangerie? On va poser la question au patron de la boulangère qui accélère par ailleurs sur le bio.
À la une, en effet, l'alimentation industrielle. Et si on remplaçait les œufs par de la poudre végétale? C'est ce que fait Yumgo, c'est la start-up, ça cartonne. Et sa cofondatrice nous dira pourquoi d'ici quelques minutes.
J'en ai l'eau à la bouche, rien qu'à vous parler de la tarte tropézienne. Ce mélange de brioche et de crème si savoureuse, la tarte tropézienne, une marque qui réjouit nos papilles depuis 1955. Pour être honnête, on en a déjà mangé quelques morceaux à la France bouge à la mi-journée. Et ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge avec notre partenaire, la CCI. Un projet est défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, c'est Deliciously, une application pour trouver les meilleurs restaurants ou bars partout dans le monde. Rendez-vous à 13h45 pour ce projet.
Et puis demain au travail, je suis sûr que vous êtes souvent posé cette question. Tiens, si je changeais de vie? Eh bien nous, on a trouvé une jeune femme, elle était boulangère, elle est devenue développeuse en intelligence artificielle et on va découvrir le parcours de Malika en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans la France bouge, c'est parti. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr, Twitter ou encore Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Ah là là, si on arrive à finir l'émission, on n'a que de bons produits là autour de la table. Je vois des pains au lait, je vois du pain de mie, je vois de la brioche. On va parler de tout cela avec notre témoin du jour jusqu'à 14h.
Bonjour Christophe Ayer.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de la boulangère. La boulangère existe depuis 1985. 2200 salariés, 7 usines en France. Alors si ça ne vous dit rien, je suis sûre que vous en avez déjà vu dans les rayons de vos supermarchés. La boulangère, ce sont des pains au lait, des pains au chocolat, des baguettes viennoises. Alors on n'arrête pas de parler de hausse de prix des matières premières et notamment la hausse du prix du blé. Christophe Ayer, il y a eu une hausse de plus de 26% sur un an. Concrètement, qu'en est-il chez vous à la boulangère?
Mais écoutez, on est comme tous les industriels. Nous subissons les hausses dans tous les produits, les matières premières, les emballages, les énergies. Et donc, nous allons être obligés de répercuter des hausses, malheureusement.
Donc, vous allez augmenter les prix?
Un petit peu. Cependant, nous travaillons depuis 2012... pour nous déconnecter des marchés mondiaux. Et donc, nous avons réussi à le faire sur deux matières premières, qui sont la farine et les œufs, qui sont issus du commerce équitable français, ou commerce équitable Nord-Nord, labellisé agri-éthique. Et l'intérêt de la démarche, c'est de garantir un revenu fixe à l'agriculteur, qui a été défini avec les différentes parties, c'est-à-dire les parties prenantes que sont l'agriculteur, la coopérative, le meunier et la boulangère.
Alors vous dites,
donc
vous
ça, c'est une démarche vertueuse.
C'est une démarche vertueuse qui vous permet d'être un petit peu épargné. Malgré tout, Elisabeth rappelait ce chiffre pour le blé, qui est indispensable pour faire du pain. Enfin bon, c'est pas vous que je vais l'apprendre.
Oui.
Plus 26% sur un an, vous nous le dites, on va être obligé de faire passer des hausses de prix. Pour nous, consommateurs, ça veut dire quoi? C'est quelques centimes, quelques dizaines de centimes par produit, la boulangère?
Alors, j'insiste un petit peu sur la démarche vertueuse parce que cette démarche, elle est surtout faite pour l'agriculteur, pour que la rémunération soit correcte. Et c'est quand même dans l'air du temps. Donc, je voulais insister un petit peu là-dessus. Après, on va être sur quelques centimes, bien entendu. Aujourd'hui, le budget des ménages en alimentaire est assez faible. Donc, nous, on va répercuter le minimum, mais c'est quelques centimes. Oui.
Vous dites on va répercuter, mais vous ne le décidez pas tout seul. Il faut que la grande distribution accepte ces hausses. Et typiquement, par exemple, Michel-Édouard Leclerc, leader en France, a dit qu'il en est hors de question. Ils font des marches comme ce n'est pas permis. Ils vont serrer un peu les finances et puis ça passera.
Alors, il y a la vraie vie quand même. Donc, il y a bien des hausses de matières premières. Après, vous dites qu'on doit passer les hausses. C'est vrai, on doit convaincre les distributeurs. Donc, c'est notre démarche,
c'est
notre travail.
En plus, les négociations annuelles commencent quand?
Bon, ça va commencer fin du mois d'octobre.
Ouais, donc, vous êtes prêt à... à montrer vos beaux produits pour justifier cette hausse des prix auprès des...
Oui, moi je pense que le distributeur, il est bien au courant de tout ce qui se passe dans les matières premières. Donc il va falloir convaincre, parce que c'est vrai, ça fait plusieurs années que sur l'agroalimentaire, on est plutôt en déflation. Donc là, cette année, j'espère que ce sera la bonne année où on va enfin retrouver un petit peu de dynamique positive.
Vous les préparez justement, ces négociations commerciales, en amont, là, vous êtes déjà dans le bain?
Bah, si vous voulez, les équipes commerciales avec le contrôle de gestion, on regarde les coûts qu'il faut répercuter. On fait des choix en fonction des produits pour limiter l'impact. Parce que
mais ça veut dire que vous passez un petit coup de fil en amont au patron des achats de telle ou telle enseigne en disant cette année, ça augmente un peu, va falloir être plus sympa. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses où on aime bien connaître les coulisses?
Non, il n'y a pas de petit appel avant. Mais par contre, il y a une persuasion des commerciaux pour justement expliquer pourquoi on ose. On passe des hausses. On n'a pas envie de passer des hausses. En plus, l'inconvénient des hausses, c'est que vous vous mettez en porte-à-faux vis-à-vis de la concurrence. Donc, ce n'est pas un avantage.
Mais là, vous êtes tous d'accord. C'est l'avantage, entre guillemets. C'est que tous les l'agroalimentaire, typiquement l'ANIA qui vous représente, qui est l'association qui représente les industriels de l'agroalimentaire, l'a dit très clairement cette semaine en disant que ce n'est plus tenable.
Bah, c'est vrai que c'est plus tenable, puisque ça fait 5 ans, 6 ans que nous faisons de la déflation au moment des négociations annuelles. Donc là, cette année, c'est évident qu'il faut passer des hausses. Mais la distribution, j'en suis convaincu, va accepter des hausses.
Elle sera à l'écoute. Christophe Hayet, au-delà des prix, comment ça va en ce moment pour vous au niveau consommation? On l'a dit tout à l'heure, vous êtes arrivé, là on le voit dans notre studio, avec du pain complet, de la brioche, des baguettes viennoises. Vous avez des produits de qualité. On va revenir tout à l'heure en détail vos produits. Mais au niveau consommation, est-ce qu'il y a eu un effet crise sanitaire, un effet confinement dans la consommation de vos produits?
Alors, il y a eu bien sûr la vente supplémentaire qui est arrivée en mars et avril 2020, au moment du Covid. Ensuite, la fermeture des restaurants fait que nous avons toujours eu des ventes soutenues, parce que nous avons des gammes de pain qui sont des supports pour les repas, et donc des solutions repas. Et donc, notre gamme Pain du Monde, qui est composée de pain suédois, de panini, de bruschetta, fonctionne très bien, car elle permet aux consommateurs de varier ses repas. Je dirais même peut-être de voyager
donc,
un peu dans l'assiette.
Il y a une petite augmentation là aussi? Vous avez senti un frémissement chez vous?
Oui, il y a un frémissement, puisqu'il y a une transformation, je dirais, alimentaire. Les gens veulent aller vers une alimentation plus saine, plus durable. Et c'est vrai qu'avec l'offre biologique, on apporte cette solution.
C'est ça, parce que c'est le grand virage. On vous trouve dans la grande distribution du côté de la boulangère, là encore, avec les produits que vous nous avez apportés. Par exemple, le pain de mie, je vois boulangère bio. Pareil pour les autres gâteaux que vous pouvez avoir à côté. C'est le virage massif que vous avez pris et le pari, d'une certaine manière, que vous faites.
Alors, c'est vrai que le bio, on a pris le pari il y a 20 ans, puisque c'est notre anniversaire cette année. Donc, c'est beaucoup d'engagement. Mais ça nous a permis aujourd'hui d'être prêts pour trouver des nouveaux consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs ont évolué et nous, on avait une stratégie. Et là, on s'est croisés. Donc, on est en croissance grâce à l'association.
Et ça représente combien de chiffre d'affaires, le bio, chez vous, pour qu'on ait une idée?
Alors, le bio représente 40% de notre chiffre d'affaires global par rapport au conventionnel, qui fait 60% sur la marque La Boulangère. Donc, c'est important, puisqu'on est la première marque généraliste, parce que vous savez, il y a des marques qui sont spécialisées en bio, comme Léa Nature, Björg. Et nous sommes une marque généraliste. Et donc, dans les marques généralistes, nous sommes la plus grosse marque dans les PGC en bio.
Une marque industrielle qui se porte bien, son chiffre d'affaires dans le bio correspond à 40% de la totalité de son chiffre d'affaires. C'est La Boulangère. Christophe Hayet, vous en êtes le directeur général et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle mange. J'espère qu'on vous donne faim aujourd'hui dans cette France Bouge. Notre invité, c'est le directeur général de La Boulangère. Vous les connaissez sûrement pour leur pain, pour leur pain de mie, pour leur brioche. Société vendéenne, 7 usines en France. Et si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous l'avez sûrement entendu. Ils ont fait le virage du bio il y a déjà 20 ans. Ils en sont bien heureux aujourd'hui parce que ça cartonne. Ça représente 40% de leur chiffre d'affaires. Et ils espèrent bien réussir à faire passer des hausses de prix là dans les semaines à venir de quelques centimes sur chaque produit, en raison bien évidemment de la flambée du prix des matières premières en ce moment.
Alors dans les produits industriels, vous l'avez peut-être tous remarqué, il y a des œufs partout. Tiens, d'ailleurs, Christophe Haillet, il y a des œufs dans la boulangère, dans vos pains, dans vos pains au lait, il y en a partout.
Il y a des œufs, comme on fait attention au bien-être animal, ce sont des œufs de poules élevées en plein air. Alors bien sûr, sur le bio, c'est obligatoire, mais sur la marque conventionnelle, nous sommes 100% avec des œufs de poules élevées en plein air.
Mais alors, figurez-vous qu'il y a une entrepreneur qui a trouvé le substitut, une alternative aux œufs pour éviter d'en mettre justement partout. Et c'est vous, Anne-Vincent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Yumgo. Yumgo, vous dites que c'est une façon de réinventer les œufs. C'est à destination des professionnels, des industriels. Alors, je tiens à préciser qu'on vous connaît bien à la France Bouche parce que vous avez été nominée dans les Trophées de l'Avenir Europe 1 en 2019. Depuis, il s'est passé des tas de choses. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien tous, Yumgo, c'est une alternative aux œufs. C'est sous la forme d'une poudre, c'est bien ça?
Non, c'est sous format liquide.
Ah, mais je croyais qu'il y avait aussi une poudre.
Non.
Non, pas vous. Entre les shampoings à la poudre qu'on a reçu récemment. Donc vous, c'est du liquide, mais ce ne sont pas des œufs.
Ce ne sont pas des œufs, donc c'est 100% végétal, naturel, sans allergène. Donc en fait, on a voulu créer des produits qui pouvaient remplacer les œufs à l'identique. Donc, utiliser la même quantité pour avoir le même résultat, la même texture, mais le tout sans œufs.
Mais il y a quoi dans ce liquide ?
Il y a des protéines végétales. Donc, sur le Yumgo blanc, qui est un substitut végétal de blanc d'œuf, on est sur de la pomme de terre. Sur le Yumgo jaune et le Yumgo entier, on est sur de la protéine de pois. Donc, c'est vraiment.
Comme du pois chiche, par exemple ?
Il y a du pois chiche dans le Yumgo entier, du pois jaune dans le Yumgo jaune.
Et ça marche du coup pour toutes les recettes ? C'est-à-dire que ça vient vraiment se substituer à tous les œufs qu'on peut utiliser dans nos recettes, par exemple, de pâtisserie ?
Exactement. Donc, vous pouvez faire des macarons, des meringues, des recettes salées aussi, comme des mayonnaises, des quiches, des cakes. Vraiment, toutes les recettes à base d'œufs, mais sans œufs.
Mais quand vous êtes décidé à lancer Yumgo, c'est parce que c'est parti d'un constat qu'il y avait trop d'utilisation d'œufs ou c'est parce que c'était pour les personnes allergiques aux œufs ? C'est quoi la motivation initiale ?
La motivation, c'est exactement ce que vous dites. Donc, il y a une nécessité aujourd'hui de diminuer la consommation de produits d'origine animale pour des raisons environnementales, pour des raisons de bien-être animal, pour des raisons de santé et d'allergie. Et aujourd'hui, l'œuf, comme vous le dites aussi, il est présent dans énormément de recettes. Donc on est parti du constat qu'il fallait trouver une solution simple pour le remplacer, ce qui n'était pas le cas. Donc on peut remplacer le beurre, la crème, le lait, mais les œufs, c'est extrêmement compliqué, surtout pour les chefs professionnels. Et donc, avec mon associé Rodolphe Landemaine, qui est boulanger-pâtissier, on s'est dit, comment fournir aux professionnels une alternative qui va être facile à utiliser ?
Et quel est l'accueil alors des chefs professionnels ? Quand vous les voyez arriver, ils regardent comment ?
Ils sont très ouverts et très positifs, en fait, parce qu'il y a une véritable demande et il n'y a pas forcément de solution. Donc, ça, l'accueil est très chaleureux.
Alors moi, vous allez croire que je suis toujours intéressé que par le prix ou combien ça coûte. Mais est-ce que, du coup, c'est une alternative aussi qui se fait au même prix que les œufs ou les œufs même parfois et maintenant de plus en plus quand même bien élevés ?
Oui, non. Aujourd'hui, on est plus cher que les œufs. Tout simplement parce qu'au niveau de la protéine végétale, on est encore sur des marchés où il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres. Mais on espère bien que dans l'avenir, ça va se démocratiser. Mais aujourd'hui, on est encore plus cher que les œufs.
Elisabeth le disait, vous êtes tournée principalement vers le marché des professionnels aujourd'hui. Alors, je suis sûr qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont parfois allergiques à l'œuf, qui sont en train de se dire là en voiture ou à la maison, ah oui, mais moi, tiens, ça m'intéresse ce truc. Le grand public, c'est pour quand ?
On est déjà disponible dans certaines épiceries spécialisées et également en ligne. Donc, il y a moyen de nous trouver pour le grand public, pas encore dans les grandes surfaces, mais sur notre site, vous trouverez un certain nombre de points de vente où on fournit des petits formats pour les particuliers. Donc, en effet, il y a déjà des particuliers qui nous utilisent.
Christophe Haillet, vous êtes le directeur général de la boulangère, vous êtes notre témoin du jour. Comment vous regardez ça, là, ce Anne-Vincent, cofondatrice de Yumgo, donc qui apporte cette alternative aux œufs, hein, de ces produits liquides qui sont totalement sans protéines animales?
C'est très intéressant parce que nous avons lancé la première gamme de produits végans en viennoiserie il y a 3 ans. Et là, on a raisonné en R&D en supprimant l'œuf. Vous voyez ? Donc, on a une texture qui est agréable, etc. Les produits se vendent gentiment, c'est le début. Par contre, là, je trouve que la proposition de Anne permettrait peut-être de rajouter de la texture dans nos viennoiseries. Donc maintenant, c'est un projet très intéressant.
Ça, vous pourriez peut-être...
On va.
Carrément.
Oui, on va parce que vous êtes rencontrés faire... là ou vous connaissiez déjà avant?
Non, on s'est rencontrés en bas. Et
En bas
d'Europe 1. Et nous allons tester en R&D, bien entendu, la méthode de Yumgo.
C'est aussi fait pour ça, la France Bouge.
Bon, on est bien contents et j'espère qu'on sera les premiers avec l'équipe de la France Bouge à venir déguster.
On vous en enverra.
Ce qui est intéressant dans des métiers comme le vôtre, je le disais, vous avez fait un virage vers le bio il y a une vingtaine d'années du côté de la boulangère. On sait, aussi paradoxal que ça puisse être, aujourd'hui en France, il n'y a pas assez de produits bio. On n'arrive pas assez à en produire, on doit en importer. Comment vous vous fournissez-vous ?
Alors, regardez, si on prend une matière première que m'a fait changer cette année, c'est l'huile de colza. L'huile de colza bio, on avait 80% de l'approvisionnement en France, et 20% dans la mer Noire. C'était quelque chose qui nous titillait, parce que dans notre logique de philosophie du bio, on veut être 100% français. Donc ce qu'on a fait, on a créé une filière d'huile de tournesol bio avec la coopérative La Cavac, et c'est en place maintenant dans les produits. L'intérêt également du tournesol, c'est que c'est une plante rustique et donc il consomme peu d'eau. Mmh. Vous voyez. On a fait cette démarche-là dans d'autres produits. Hein. Sur le lait, par exemple, on a dans les pains au lait, on a de la poudre de lait qui vient d'une laiterie qui est très proche de chez nous. Mais on est passé avec du lait frais, avec une autre laiterie qui est également proche de nous. Et ça nous permet d'avoir une meilleure, un meilleur goût au niveau des produits.
Ce qui est marrant, c'est que ça semble très ancré et très sincère chez vous. Une fois de plus, vous le disiez, vous avez fait ce virage il y a 20 ans. Malgré tout, vous arrivez encore, avant de ça, à des prix relativement corrects. Parce que la boulangère, c'est une gamme qu'on retrouve en grande distribution. Il n'est pas question de trop augmenter les prix parce qu'on vend du bio. Comment vous y arrivez ?
Nous, notre philosophie, c'est le bio bon et accessible à tous. Donc voilà, donc on doit rester grand public, on travaille dans les usines, on a des usines qui sont performantes et donc ça nous permet de réaliser des produits qui sont accessibles à tous.
Anne-Vincent, vous êtes la cofondatrice de Yumgo, je le disais, hein, vous étiez venue sur Europe 1, vous avez été nominée dans les Trophées de l'Avenir La France Bouge en 2019. Que vous ont apporté ces trophées ? Vous avez eu plus de contrats ?
Oui, je pense. Toujours déjà une très bonne expérience, beaucoup de visibilité. Ça permet toujours de nous faire connaître et de pousser certains à nous contacter pour tester le produit. Donc depuis lors, on a beaucoup de nouveaux clients. On était tout au début, en fait. On avait juste le Yumgo blanc. Donc depuis lors, on a lancé le Yumgo jaune, donc le substitut de jaune d'œuf. Et on est en phase de prototype sur le Yumgo entier. Donc beaucoup de belles évolutions.
Une belle évolution. Et là, vous êtes venu avec des gâteaux. Je vois Emmanuel qui salive devant. Je tiens à préciser, il y a de la meringue, il y a un flan, il y a un gâteau un peu. C'est
un entremets avec de la mousse au chocolat.
Il y a des financiers.
Et des financiers, et tout ça, c'est sans œufs.
C'est sans œufs et c'est 100% végétal.
100% végétal. Ça s'appelle Yumgo.
Bon, parce que c'est peut-être ça quand même.
Bien sûr, c'est délicieux. Mais ça,
vous allez les goûter. Vous allez les goûter, Emmanuel. Ne vous en faites pas. Ça s'appelle Yumgo. Merci à vous, Anne-Vincent, d'être venue dans La France Bouge.
Et Christophe Hayé, le patron de la boulangère, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Nous sommes ravis de vous accueillir chaque jour en direct de 13h à 14h. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Hayé, qui est le directeur général de la boulangère. Alors, on l'a vu depuis le début de l'émission, vous avez fait un gros virage vers le bio. Ça a été compliqué au début, maintenant ça marche bien. Il va falloir accepter de payer un petit peu plus cher dans les semaines à venir à cause de la hausse du prix des matières premières, 7-8 centimes sur la plupart de vos produits. Il y a une autre évolution extrêmement importante dans votre secteur, c'est les emballages. Là, les produits que vous nous avez apportés, il y a encore du beau plastique blanc autour de tout cela. Comment on fait pour aller vers quelque chose avec du zéro plastique ou du plastique totalement recyclé ?
Alors, il y a 8 ans, j'ai embauché un ingénieur sur ces métiers-là. On a eu un petit peu de mal à démarrer. Aujourd'hui, on a 3 solutions. La première, c'est 20% de nos emballages aujourd'hui sont recyclables. Dans 6 mois, 100% de nos emballages sont recyclables.
Ah ouais.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand nous avons des suremballages, nous supprimons le plastique et nous avons lancé cet été la brioche pour les enfants, la brioche pépite, là, avec un suremballage papier qui est home compostable. Voilà. Donc, deuxième chose. Et la troisième, nous travaillons avec une start-up depuis 3 ans et demi pour réaliser l'emballage biosourcé et home compostable. Voilà. Ça, c'est mon rêve. Il en faut.
Et vous, voilà. Et vous pourriez imaginer aussi, si on va plus loin, aller dans le bio, dans ces emballages, pourquoi ne pas aller vers le vrac ?
On a une petite cellule chez nous pour réfléchir sur le vrac, mais vous voyez les produits avec ces grandes tranches, etc.
Non, mais un emballage individuel.
Individuel.
C'est-à-dire pour chaque tranche ou pour chaque brioche, un emballage.
Oui, mais là, on n'est plus dans le vrac. Là, on est plutôt dans le snacking, vous voyez, de la tranche. Donc non, le vrac vraiment à disposition,
c'est plus
d'un
compliqué
point de vue
avec ces produits.
Hygiène, un peu compliqué. Et en plus, il y a la durée de vie des produits. Un produit comme ceci à l'air libre, il ne tient que quelques heures.
Alors, on l'a entendu, hein, vous évoluez beaucoup sur les emballages et sur tout ça. Est-ce que ça peut se faire là aussi sans faire payer le consommateur ? Ou est-ce qu'il faut que nous, collectivement, pour participer à cette transition écologique, on accepte une sorte de surtaxe bio, une surtaxe écologique ?
Alors, ça serait logique, je trouve, mais nous, c'est nous qui prenons en charge ces surcoûts. C'est-à-dire que le passage au papier, le passage au recyclable, le passage sur des matières premières équitables, c'est un choix d'entreprise. Donc, on investit là-dessus en se disant, un jour, le consommateur va adhérer et on retrouvera donc des volumes supplémentaires qui nous permettront d'amortir les coûts initiaux.
Alors Christophe Ayer, vous parlez des consommateurs, justement, qui sont vos clients ? Vous vendez à qui vos baguettes viennoises, vos briochettes au chocolat, votre pain complet, bio ou non bio d'ailleurs ?
Alors nous vendons donc, nous sommes présents sur le rayon épicerie des grandes surfaces. Donc nous sommes présents dans toutes les grandes surfaces françaises, grandes surfaces alimentaires.
Donc vos consommateurs, c'est tout le monde ? Il n'y a pas votre cible, vous n'avez pas une cible bien précise ?
Alors, c'est tout le monde, mais tout le monde n'achète pas encore des produits biologiques. Donc, on touche un tiers des foyers français aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a encore du travail, d'explication, de communication aussi, j'imagine, pour que les gens découvrent les produits.
Vous êtes très lié, on le disait aujourd'hui, aux produits de boulangerie, mais on peut imaginer une marque qui irait un peu plus loin que ça, qui sortirait du rayon boulangerie à partir de tout ce que vous produisez, surtout que vous appartenez à un groupe, hein, agroalimentaire, dans lequel il y a pas mal de petites marques. Est-ce que vous pourriez, du coup, vous développer encore plus au-delà du rayon boulangerie ?
Vous pensez dans des magasins,
au traiteur,
je sais pas,
ou genre de choses,
sandwich.
Alors non, on a une activité parce que le pain étant un support, on a une activité ce qu'on appelle B2B. On travaille avec différents industriels qui recherchent des produits soit bio, soit des produits support. Mais aujourd'hui, on a encore de quoi grandir sur les magasins français. Nous ne sommes pas présents partout.
Alors, Christophe Ayer, à la boulangère, il y a 2200 salariés. C'est important. Mais vous êtes aussi en phase de recrutement. C'est aussi pour ça que vous êtes dans la France Bouge. Vous recherchez quel profil, précisément ?
Alors, le recrutement, aujourd'hui, c'est un challenge. Il faut se battre tous les jours.
Pourquoi il faut se battre ?
Parce que on a beaucoup de besoins. Nous recrutons plus de 100 personnes par an. Mais on met du temps à trouver des gens. Alors, je vais profiter de l'antenne pour passer un petit coup de pouce à l'ARH et au directeur de site. Mais on recherche des profils variés, tout âge, et hommes ou femmes, et sur les environnements de soit la production, soit la maintenance. Mmh. Donc,
vous êtes face à une situation que vous n'avez jamais connue de recrutement. C'est-à-dire qu'on a pas mal de patrons qui, en ce moment, nous disent que c'est complètement paradoxal.
C'est inédit.
Il y a 8% de chômeurs. Mais on n'a jamais mis autant de temps à trouver du personnel. C'est le cas chez vous ?
C'est ça, c'est tout à fait le cas. Alors, on a bien sûr des métiers comme la maintenance qui sont des métiers qui sont toujours sous tension. Mais là, on est à quelque chose de général. Dans toutes les fonctions, on a des difficultés. Alors, on est encore sur la fin de l'effet du Covid. J'espère que dans 2-3 mois, on va retrouver des gens qui se positionnent sur nos annonces.
Parce qu'on dit souvent que, notamment dans vos métiers, on manque de gens qui sont formés à vos métiers. Ce matin, Elisabeth Borne, qui est la ministre du Travail, dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, a dit on va changer la façon de faire. On va maintenant payer les entreprises qui vont directement former, au sein même de leur chaîne de production, les demandeurs d'emploi. Pour ça, il faut qu'ils soient au chômage depuis plus d'un an. Ça vous intéresse, vous, de vous dire, nous, on va s'en charger, on a de quoi faire, on sait former les gens et on va comme ça pouvoir recruter.
Alors, on sait former les gens, on est même en train de mettre en place une école de formation. Et ce que je voulais dire, excusez-moi, j'ai perdu
donc,
par rapport à...
Une école de formation dans laquelle on va apprendre quel type de métier ? Parce que pour travailler à la boulangère, c'est quoi l'expertise qu'il faut avoir ?
Merci Elisabeth. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons aujourd'hui à peu près 70 apprentis. Donc, on fait déjà la démarche qu'explique la ministre. On a 70 apprentis qui sont dans les sites que l'on forme pendant un an ou deux et que nous espérons garder en fin de formation.
Alors, chaque jour dans la France Bouge, Christophe Ayer, on découvre une marque, un endroit ou un produit qui font la fierté de notre pays. Je vous propose de rester dans l'univers de la boulangerie. On va aller aussi un peu du côté de la pâtisserie avec un produit résolument français qui nous fait penser à ça. Saint-Tropez et sa fameuse tarte tropézienne.
Oui, c'est Charlotte Barrican qui a mis ses claquettes pour nous raconter l'histoire de la tarte tropézienne.
Europe 1, la France bouge.
La saga.
Vous vous en doutez, tout commence à Saint-Tropez. Un certain Alexandre Mika, pâtissier polonais, débarque là-bas et revisite la recette de sa grand-mère, un dessert à base de crème. Albert Dufresne, président de la tarte tropézienne.
C'est une brioche toute simple. Toute simple et je dirais pas complètement de super qualité. Parce que vu qu'on met 1,5 kg de crème dans une grande tarte tropézienne, on ne veut pas qu'elle se sépare. On a essayé d'arranger un peu plus la qualité de la brioche pour qu'elle soit plus souple. Mais non, surtout pas, parce qu'elle se partage. C'est un gâteau qui est sur toutes les tables, sur tous les anniversaires, sur toutes les tâches. Donc il faut aller quand même que la brioche, même si elle est douce et tout, parce qu'elle se met bien avec la crème, elle, quand elle est bien imbibée, c'est là qu'elle est le meilleur. Il faut la manger toujours à température ambiante.
Le succès de ce dessert est immédiat et à peine un an plus tard, Brigitte Bardot débarque à son tour à Saint-Tropez pour tourner un film et l'engouement devient général.
Il avait une petite boutique en face de la mairie. C'est là qu'a été tourné le film « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot. Donc ils venaient tous à la boutique le matin. Brigitte Bardot venait, mangeait de la tarte tropézienne. Elle n'avait pas de nom au départ. Et M. Mika, c'était sa spécialité. Madame Bardot lui a dit « Pourquoi tu l'appelles pas la tarte de Saint-Tropez ?» et tout. Et voilà, c'est fini comme ça. C'était la tarte tropézienne. Il l'a fait breveter et Bardot est devenue la marraine de la tarte tropézienne et de notre entreprise.
En 1985, Alexandre Mika revend l'affaire à Albert Dufresne, qui était son associé. Aujourd'hui, l'entreprise est toujours artisanale et familiale. En haute saison, ce sont plus de 2000 tartes cuisinées tous les jours. Mais tout irait bien si l'entreprise était au complet.
Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne trouve plus personne pour travailler. On ne trouve plus de pâtissier, on ne trouve plus de boulanger, on ne trouve même plus de vendeuse. On a eu des petites étudiantes qui ont bossé avec nous tout l'été, qui ont été exceptionnelles, qui ont bossé avec nous. Elles sont parties, on n'arrive pas à trouver des vendeuses. On va être obligé de fermer des boutiques, alors qu'on ne voudrait pas fermer avant fin octobre les principales boutiques. Parce qu'on ne trouve personne. On ne trouve personne pour travailler.
En ce moment, 30 postes sont à pourvoir parmi l'une des 27 boutiques et des 10 franchises de la tarte tropézienne. Et l'entreprise continue son expansion vers l'international avec un premier réseau de distribution à Dallas et beaucoup de demandes en Europe et en Asie.
C'est fou, hein, depuis là quelques minutes dans la France bouge, il y a 130 postes déjà à pourvoir, 100 du côté de la boulangère, 30 du côté
allez,
de la tropézienne.
Allez préparer des tropéziennes, c'est invraisemblable, ils ne trouvent personne pour
surtout
travailler.
Surtout que du côté de l'équipe de la France bouge, je peux vous dire qu'il y a de quoi en manger derrière. Alors en tout cas, Christophe Hayet, je rappelle que vous êtes le patron de la boulangère. Ce genre de dessert, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez aussi aller, ce genre de procédé?
Alors on est plus positionné sur le petit déjeuner. Mmh. Et c'est vrai que cette tarte, elle est, elle, positionnée vraiment en dessert. Ouais. Donc les brioches vendéennes, qui n'ont pas eu la chance d'avoir Brigitte Bardot en Égérie, hein, sont quand même positionnées un petit peu au moment des desserts et surtout du petit déjeuner.
Mais vous aussi, vous restez très local, puisque ces brioches vendéennes sont faites toujours en Vendée du côté de la boulangère.
Tout à fait. Au Verbier.
Six usines, hein.
Sept usines, dont quatre en Vendée.
Donc quatre en Vendée. Christophe Hayet, vous êtes le directeur général de la boulangère. Là, on va vous demander votre rôle, votre expertise de patron, parce qu'on va vous demander d'accompagner une entrepreneur qui se lance. Vous êtes prêt?
Oui, je suis prêt.
Et on y va.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre pour essayer de défendre leur dossier devant l'œil attentif et quand même souvent assez exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Christophe Hayet, qui est le directeur général de la boulangère. Et puis, bien évidemment, on va retrouver Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie qui va nous apporter ses précieux conseils.
Et un projet d'entreprise dans la France bouge lancé il y a pile un an. Bonjour, Anne Copin.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Deliciously. Vous avez 43 ans. Deliciously, c'est une application qui nous aide à trouver les meilleurs restaurants, les meilleurs bars partout dans le monde. Ce n'est pas votre premier projet parce que vous, votre passion à la base, c'est la cuisine. Alors, c'est quoi Deliciously? Eh bien, on va vous laisser dérouler votre projet. C'est parti pour le pitch. On vous écoute.
Alors, quand on est en pause déjeuner ou dans une ville qu'on ne connaît pas, on aurait bien souvent envie parfois qu'on nous prenne par la main pour aller découvrir des bonnes adresses. Alors moi, j'ai créé Deliciously, une application qui localise tout autour de soi les meilleurs restaurants, bars, cafés. Ça va de la petite cantine à la table étoilée. Notre originalité, c'est qu'il n'y a pas de notes, pas de commentaires, tout est 100% fiable. Il y a quelques semaines, on a lancé un fil photo et vidéo spécialisé Food et Voyage qui s'ouvre quand on ouvre l'app. Et là-dedans, il y a des sponsors qui mettent en avant leur marque. Et c'est ça qui nous permet de rester complètement gratuit pour les restaurateurs et les utilisateurs.
Et ben voilà.
Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes, on est en pleine expansion, on a une cinquantaine de villes ouvertes dans le monde et on est à la recherche d'investisseurs pour nous accompagner dans l'aventure.
Et ben bravo déjà Anne Copin pour ce pitch. Alors vous cherchez des investisseurs, vous cherchez combien ?
Oh bah, déjà un, ça serait bien.
Non, mais en euros.
Ah bah, 300 000 euros par exemple, ça serait, voilà, ça nous aiderait à nous développer.
Et ben voilà, si le message est passé auprès des investisseurs déjà.
Alors Anne, je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Anne, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Anne, ça vous, Nathalie, ça vous a plu Deliciously ? Vous êtes allée tester ?
Oui, j'ai testé effectivement. Ouais, j'ai envie des trucs sympas.
Alors quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de cette appli ?
Bah déjà, bravo d'avoir osé lancer une appli de ce type au milieu des mastodontes quand même déjà en place. Et puis, vous n'en avez pas parlé, mais en fait, la bonne idée, c'est de faire participer la foule. Alors, il y a vous, mais il y a aussi des contributeurs. Et donc, ça permet de dénicher des adresses qu'on ne trouve probablement pas sur les autres applications. Puis, quand on fait des recherches, la fiche du restaurant est hyper simple, mais en fait, très pratique. Des pictogrammes qui qualifient le lieu et le budget, des photos, les horaires d'ouverture. Et finalement, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de plus, puisque c'est vrai que tous ces commentaires, entre les trois qu'on dit que c'est bien et les trois qu'on dit que c'était pas bien, bah finalement, on ne sait jamais comment choisir. Alors, au niveau des points améliorés, quelques détails. Valorisez plus vos critères de sélection, c'est important et ça fait une vraie différence avec les autres applis. Et là, il faut aller dans les questions-réponses pour le savoir. Puis, idem sur la question, en quoi vous êtes différent des autres ? Mettez ça en avant. Puis deux suggestions pour vous différencier davantage encore. Vous parlez de votre passion des voyages sur votre site. Vous pourriez plus capitaliser dessus. Par exemple, vous pourriez ajouter une mention de type « comme à Bangkok, comme à Naples, comme à Nice » ou même « comme à Paris en 1950 ». Vous voyez un petit côté « fermez les yeux, grâce à nous, vous y êtes ». Puis deuxième idée, peut-être que vous pourriez proposer la recette emblématique du chef des lieux que vous repérez. Ça les valoriserait. Et puis si on ne découvre pas l'appli directement, eh ben vous auriez une chance qu'on découvre l'appli par la découverte des recettes.
C'est toujours passionnant ce que nous dit Nathalie Carré. Anne Copin, comment vous réagissez aux petits conseils de Nathalie ?
Bah, c'est des précieux conseils. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, mais bon, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché.
Et c'est vrai, elle a raison de dire qu'il faut peut-être plus détailler. Nathalie, son grand truc, c'est de raconter une histoire, hein, que ça puisse vous différencier le plus possible par rapport aux géants.
Oui, surtout que notre identité, elle est très forte. On est vraiment des passionnés. On travaille avec des contributeurs locaux. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans les une minute. Ça va
hyper
pas vite.
Important.
On a des contributeurs locaux qui nous font remonter toutes leurs bonnes adresses, qui sont également passionnés. Oui, c'est vrai que c'est notre différence.
Parce que si on doit caricaturer, on est plus proche chez vous d'un Lonely Planet qu'en TripAdvisor. On est un peu sur les adresses où le monde va le plus, parce que ce qui remonte, c'est à chaque fois, par exemple, là où il y a le plus de commentaires. Donc, par définition, les choses où on est le plus allé. Ça vous irait comme ça, comme différenciation ?
Oui. C'est vrai que ce qui nous... C'est la fiabilité Lonely Planet. On a confiance dans ce média. Donc, c'est ça notre force aussi, oui, également.
Christophe Ayer, je rappelle que vous êtes le directeur général de La Boulangère. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joli projet ?
C'est le patron qu'on veut, là. On veut le regard du chef d'entreprise.
Bah déjà, Anne, elle est passionnée. Et en plus, elle a fait de sa passion son métier, là. Hein ? Donc ça, c'est très intéressant. Après, son modèle économique n'est pas encore bien stabilisé. Mais ce que je voulais lui dire, c'est que pour le bio, on a mis plus de 10 ans à grandir. Quoi. Ça a mis du temps. Donc, il faut être persévérant. Et je trouve, moi, que dans une chose qui n'a pas été dite là, dans l'application, il y a quelque chose de très bien, c'est le label écotable. Donc nous, on est très sensibles parce que ça parle d'environnement. Donc ça, c'est vraiment un plus dans l'application, je trouve. Il faut le mettre vraiment en avant, l'écotable.
Bah, bravo déjà, ça veut dire que vous êtes allé piocher dans l'application.
Donc vous validez, Christophe.
Je valide. Je l'ai déjà sur mon téléphone.
C'est très rare, hein, parce que mettre cette petite icône, télécharger une appli, franchement, il y en a tellement que bravo. Déjà, c'est une bonne nouvelle.
Bravo, en effet. Merci beaucoup à vous, Anne Copin. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Deliciously, une application qui permet de trouver les meilleures adresses pour boire ou manger partout dans le monde. Un grand merci aussi à Nathalie Carré, que l'on retrouvera dès lundi. Et si vous aussi, vous voulez venir présenter votre projet d'entreprise, eh bien, c'est très très simple. Il y a une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance, vous aussi, de venir faire partie des candidates ou des candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge.
Christophe Ayer, vous êtes le directeur général de la boulangère. Suite et fin de votre émission. Vous restez encore avec nous quelques minutes ?
Bien sûr.
Allez, on y va.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Ah là là, on a bien envie de manger dans cette France bouche. C'est déjà la dernière partie de votre émission. Toujours avec Christophe Ayer, qui est le directeur général de la boulangère.
Et sur Europe 1, on écoute le monde changer et on vous écoute aussi changer de vie professionnelle. Gros plan sur Malika, qui a réussi à sauter le pas de la reconversion. Bonjour Malika Wisbouden.
Bonjour.
Vous avez 38 ans, vous avez été vendeuse dans une boulangerie après un bac scientifique. Ça a duré 10 ans, mais dans votre fort intérieur, vous avez toujours aimé les mathématiques. Vous avez toujours voulu devenir ingénieur, un désir qui ne vous a jamais, jamais quitté.
Exactement.
Et donc, que s'est-il passé ? Vous vous êtes dit, je vais arrêter la boulangerie. Vous avez échangé, je crois, avec une amie qui travaille dans la cybersécurité. Et cette rencontre était déterminante parce qu'elle vous a poussé à aller jusqu'au bout de votre envie.
Exactement.
Que s'est-il passé ?
Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on a la trentaine passée, on se demande si c'est pas trop tard pour changer de direction. Et elle m'a énormément motivée et elle m'a aussi rassurée par rapport aux craintes que j'avais. Et notamment, moi à l'époque, lorsque je passais mon bac, j'avais déjà à l'époque envie de me diriger dans cette direction.
Donc vers l'informatique, vers les maths, vers les chiffres.
Exactement, mm-hmm. Mais c'était à l'époque, c'était le métier masculin par excellence, très technique,
ah ouais.
C'était pas pour les femmes.
Donc de l'autocensure directement, je suis une femme, c'est pas possible.
C'était un peu...
C'est vous qui vous étiez bridée ou c'est un peu vos profs et tout qui vous avaient dit « Oula, ça c'est un métier d'homme, va faire plutôt autre chose ».
Un peu ma famille aussi.
Ah.
J'avais payé mes études, donc c'est un peu qui avait le dernier mot. Et mais oui, effectivement, quelque part aussi un peu de l'autocensure parce que j'ai pas pris le risque de tenter.
D'oser.
D'y aller, exactement. Mm-hmm.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez pris ce risque. 10 ans plus tard, vous avez quitté la boulangerie, vous avez sonné à la porte de Pôle emploi pour avoir des formations. Et là, vous êtes allé du côté de Simplon, l'école du numérique. Et ça y est, tout est parti.
Exactement, c'est parti à partir de là et ils m'ont offert ma chance. Et aussi, je voyais aussi que les entreprises étaient vraiment à la recherche des femmes. À l'inverse, il y a 10-15 ans, au contraire, là, ils vont à la pêche aux femmes, ils en ont besoin. Donc du coup, ça a été une opportunité aussi pour moi. Et donc j'ai rencontré des personnes intéressantes qui m'ont beaucoup motivée et poussée à aller jusqu'au bout.
Donc, vous avez quitté la boulangerie, vous êtes allé du côté de chez Pôle emploi pour avoir des formations, ils vous ont énormément aidé. Et vous vous êtes inscrite à l'école Simplon, une école du numérique.
Et vous y êtes toujours encore aujourd'hui, et du coup, vous êtes même dans une formation plus longue.
Exactement. J'en ai fait une petite pour déjà voir un petit peu si ça me plaisait vraiment, si c'était bien la direction que je voulais prendre et qui me correspondait. Ça a été le cas. Cette petite formation m'a vraiment motivée. L'esprit était... les formateurs, tout était bien fait. Du coup, ça m'a vraiment motivée pour faire une formation beaucoup plus longue. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir me présenter à l'école d'intelligence artificielle de Microsoft en partenariat avec Simplon, justement. Donc, j'ai pu y accéder.
Est-ce qu'on vous a proposé un travail là ? Parce que dans votre secteur, il y a plein de travail. Donc, on ne va même pas attendre la fin de votre formation. Parti comme c'est parti.
Donc la formation consistait à une période de 7 mois en intensif et d'une année en alternance. Donc je suis en alternance actuellement, donc j'arrive vers la fin. Fin octobre, on passe notre certification et normalement il y a un CDI à la clé.
Bah justement, Simplon, on va leur passer un petit coup de fil. On va les inviter à la France Bouge. On va essayer de faire ça la courant octobre parce que vous n'êtes pas la première à nous dire que ça marche bien.
Christophe Ayer, vous êtes le directeur général de la boulangère. Des reconversions comme celle de Malika, vous en avez à la boulangère ? Dans votre entreprise ?
Oui, nous en avons. J'en ai même concrètement à l'esprit des gens qui sont passés de la production au commerce ou de la production à l'administratif. Et nous avons aussi beaucoup de boulangers qui vont vers la R&D.
Voilà, recherche et développement. Voilà. Malika, quel conseil vous pourriez donner à celles et ceux qui ont envie de se convertir, de se reconvertir, de passer à un autre emploi, tout simplement, à se dire, tiens, j'en ai tellement envie, mais j'ose pas. Et quel est le petit déclic à avoir ?
En fait, il faut aller au-dessus de tout ça. Il ne faut pas avoir peur. Déjà, il faut, faut pouvoir prendre le risque, il faut se dire, enfin, quel que soit notre âge. Hein. Au contraire, plus on a d'expérience, même si ce n'est pas dans le même secteur, plus c'est bénéfique en fait pour les entreprises.
On ne redémarre pas à zéro, c'est ça que
vous
nous dites.
On ne redémarre pas à zéro, on a acquis des choses, des compétences, des connaissances, ça sera toujours utile. Dites-vous que c'est encore plus difficile pour celui qui sort d'université, qui est un jeune diplômé, qui n'a aucune expérience. On l'a tous vécu cette période-là. Mmh. Bah, au moins, c'est plus facile pour nous puisqu'on a déjà des bagages, quels qu'ils soient. Mmh.
Et c'est quoi votre rêve de poste? S'il y a un recruteur qui est en train de nous écouter, vous rêvez quoi comme poste, Malika?
Moi, écoutez, pour le moment, je suis très bien où je suis.
Ah bah non,
allez, faut oser là, on est dans la...
Tellement.
Bon, alors vous voulez être embauché là où vous êtes là.
C'est ça, votre patron nous écoute, embauchez-la.
Non, franchement, actuellement, je suis bien là où je suis, j'aime ce que je fais.
Merci à vous, Malika Ouzboudène. Vous nous avez raconté votre parcours. Vous êtes passée de vendeuse en boulangerie à développeuse en intelligence artificielle. C'est ça, la France bouge. Merci à vous, Christophe Ayer. C'est la fin de votre émission. Vous êtes le directeur général de La Boulangère. Merci d'être venu dans La France bouge.
Merci. Et puis, La Boulangère est toujours la seule marque 100% commerce équitable en France.
Et bien, voilà pour ce mot de la fin. Lundi, on parlera de la franchise, qui est un secteur qui marche extrêmement fort. C'est bientôt le salon de la franchise. On va vous en présenter les vertus. Puis, 2-3 marques qui se sont lancées sur ce concept et qui fonctionnent très, très bien.
Donc, à lundi, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.